Ces communautés chrétiennes de relais, en plus de devoir être, comme nous l'avons vu, éminemment communautaires, favorisant un partage du vécu dans la foi et une occasion de prière assidue, ces communautés doivent être en quatrième lieu sous la mouvance consciente de l'esprit qui ne demande qu'à être sollicité et à agir. Vous savez, on fait des enseignements admirables sur l'Esprit Saint. Puis je pense que très souvent, on lui donne d'excellentes lettres de référence. Mais entre vous et moi, entre nous soit dit, il faudrait peut-être apprendre à y recourir de son vivant. Séance tenante. Apprendre à fonctionner dans la spontanéité, l'unité de l'esprit. Saint Paul aux Galates nous parle des fruits de l'esprit. Ailleurs, il nous parle de l'équilibre, de la valorisation, de cette diversité des dons, des ministères, des modes d'action. Il est le champion des cheminements et des procédés variés, mais lui seul est capable de nous protéger contre les heurts et les rivalités, car lui seul a le portrait d'ensemble. En cinquième et dernier lieu, on peut dire que ces petites communautés, par elles-mêmes, par leur existence même, témoignent et professent la présence et la puissance du Seigneur. On ne peut pas assez s'imaginer l'exemple que ce serait pour notre société de savoir que dans tel évêché existe une communauté chrétienne extraordinaire, qu'à l'intérieur de tel secrétariat d'œuvre, de recherche, d'études ou d'action, tous ceux et celles qui travaillent vivent vraiment en communauté chrétienne de foi, d'amour, de ressourcement, de prière, de pardon et d'entraide. L'existence même de ces communautés est un exemple qui touche, qui interpelle, qui entraîne, qui rassure, qui attise la foi, l'espérance et la charité, et qui suscite d'autres communautés, tisse l'Église et tient en échec nos tendances naturelles à l'individualisme et à l'éparpillement. D'où son nom de communauté de relais. Relais avec lui, relais entre membres, relais avec tous les autres, relais avec le message, relais entre la prière et l'engagement, entre la contemplation et l'action. Voilà, mes chers amis, la solution des solutions. Si nous voulons un renouveau en profondeur de l'Église institution, ne cherchons pas ailleurs. Il s'agit d'intensifier et de généraliser dans tous les rouages hiérarchiques et structurels et opérationnels et fonctionnels de l'Église la vie communautaire chrétienne. Ces communautés de base, ou plutôt ces communautés de relais, se distinguent des communautés de base parce qu'elles se situent dans le système circulatoire, articulaire, nerveux, énergétique de l'Église institution. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, à la fin du sommaire concernant la communauté de Jérusalem, où il est dit qu'ils s'aimaient et priaient, communiaient et étudiaient en communauté, Saint Luc précise au verset 47 et je cite entre guillemets, et le Seigneur, notons bien, le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Il devient l'agent par excellence du recrutement et de la propagation de l'Église quand ceux qui la constituent donnent ce témoignage communautaire. Plus loin, aux Actes 4, 32, on lit ceci, que la multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme. Personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en commun. Et mettre en commun, c'est pas seulement ses biens matériels, c'est ses idées, c'est ses projets, c'est ses initiatives. Et plus loin, on lit, c'est avec grande force que les apôtres portaient témoignage de la résurrection de Jésus, et la puissance de la grâce était sur eux tous. Voilà, mes chers amis. Être collectivement son instrument avec un grand S. Voilà ce à quoi nous devons arriver. Découvrir cette dimension. Réaliser qu'on est plus puissant en groupe que seul, que c'est son plan initial au Seigneur de nous voir ainsi regroupés, que c'est le but du Concile concernant l'Église de retisser cette communauté, cette Église-communion, qu'on a déjà sous les yeux de nombreux exemples de ceux qui vivent ainsi, et le Seigneur agit à travers eux de façon extraordinaire. Et c'est là notre tâche et la rançon à payer pour que notre Église institution revienne vraiment à lui. Que ceux et celles qui le veulent et le peuvent commencent. Les autres suivront. Passons maintenant à la section B, qui va terminer cette deuxième section. Elle est beaucoup plus courte que les autres. Et ici, j'aimerais souligner cinq tâches pratico-pratiques immédiates, si on veut que ce renouveau spirituel en profondeur s'accomplisse. La première tâche, eh bien, qu'on le veuille, qu'on le mérite, qu'on y collabore et surtout qu'on le prie. Qu'on prie pour cette résurrection spirituelle. Et comme j'ai appris depuis ce que j'appelle mon U-turn spirituel, mon virage en U spirituel des années 75 et 76, non pas à remettre mes prières ou à les noter pour les faire un jour, mais à prier immédiatement. Voulez-vous, mes chères sœurs, mes chers frères dans le Christ, nous allons nous recueillir et prier immédiatement cette intention. Bon Père éternel et tout-puissant, Dieu d'amour et de générosité infinie, nous, tes filles et tes fils, ici rassemblés dans l'unité de l'Esprit, en réponse donnée un jour de tout cœur à l'appel de Jésus, mais sans cesse renouvelé depuis, nous te prions dans la foi, avec une ferveur toute spéciale, pour le renouveau spirituel en profondeur de toute l'Église, et en particulier de tous ses secteurs et niveaux dits institutionnels. Heureux nous-mêmes d'y œuvrer de notre mieux chaque jour, et donc à même de constater nos faiblesses, nos hésitations et parfois nos lâchetés et nos confusions, nous implorons, Père bien-aimé, ta miséricorde et tes grâces de lumière, de force et de persévérance pour chacun d'entre nous et pour tous nos sœurs et nos frères, hommes et femmes engagés au service de ton Église institution. Comme Jésus te l'a demandé, face au pour et au contre du monde, préserve-nous du malin, préserve-nous du mauvais, garde-nous dans ta vérité. Nous voulons sincèrement, sous ta gouverne, devenir et demeurer tes instruments actifs, constants et sanctifiants. Que par nous, autour et au milieu de nous, ton Église en marche, soucieuse plus que jamais du monde à évangéliser, se purifie, s'édifie, s'affirme et entraîne pour ta plus grande gloire, Père très bon. Que Jésus, ton Fils et notre chef, trouve parmi nous ses meilleurs collaborateurs pour son Église. Disciples engagés, apôtres consacrés et prophètes audacieux. Que l'Esprit sanctificateur qui nous a été envoyé agisse bien à l'aise et avec force et résultat en nos cœurs et nos esprits, en nos études et en nos activités. Quant à toi, douce et bienveillante Maman Marie, nous te consacrons aujourd'hui le dossier de toutes ces requêtes qui spontanément jaillissent de notre être. Sois la médiatrice de toute grâce et de toutes celles en particulier qui nous sont et seront nécessaires à la réalisation de ses vœux, et garde-nous toujours sous ta constante protection. Amen. En second lieu, mes chers amis, il nous faudra avoir des meilleurs critères de sélection des collaborateurs et collaboratrices en Église. On ne peut plus seulement se contenter de choisir des gens corrects, honnêtes, loyaux, des bons diables. Il nous faut, au contraire, choisir des gens transparents du Seigneur, à travers qui le Seigneur fuse et transforme, des gens beaucoup plus soucieux du peuple à guider, à inspirer, que de l'Église à administrer, des gens prêts à faire orchestre, et pas seulement des solistes, même virtuoses. Il nous faudra donc avoir le courage d'un certain nettoyage. L'Église ne peut plus se permettre de tolérer dans ses postes responsables au sein d'Église institution, dans tel ou tel secteur ou à tel et tel niveau, comme, hélas, c'est parfois le cas. Des gens plus ou moins croyants, non pratiquants, hypothéqués ou handicapés spirituels, non réengagés spirituellement, adversaires du pape ou des évêques. On ne peut pas se payer ce luxe-là. Les fonctions dans les évêchés, les archevêchés, les secrétariats d'épiscopat, les œuvres majeures de l'Église ne sont pas des centres de réhabilitation d'abord, mais des foyers de diffusion de la bonne nouvelle avec toute sa richesse, sa vigueur, si on veut que cela ait de l'impact sur le salut des âmes. On a trop facilement accepté des collaborateurs et des collaboratrices sans question, sans discernement, sans penser aux conséquences. Et quand je dis sans question, nos adversaires, les chefs d'entreprise, les gouvernants, eux, vérifient quand ils embauchent. Essayez d'avoir un emploi au gouvernement, important au gouvernement fédéral. Immédiatement, la gendarmerie va commencer une enquête pour tester la foi humaine de la personne qui a demandé un poste. La même chose au gouvernement provincial et dans toutes les administrations et dans toutes les entreprises. On agit souvent sans discernement, au nom soi-disant d'une ouverture d'esprit, du pluralisme, du bien-faire, de l'écuménisme, des droits humains. On croit que ce serait de la discrimination que de demander à quelqu'un qui vient travailler dans une agence de l'Église catholique, « Est-ce que tu es catholique? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu pratiques? Est-ce que tu professes? » Et on n'a pas pensé aux conséquences. Pour l'Église, son œuvre et son influence sont compromises, mais également pour la personne concernée. Il y a des gens pour qui c'est contre-indiqué de venir travailler dans ces agences de l'Église institutionnelle. Des gens que j'ai connus, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, qualifiés, qui y ont perdu la foi ou qui ont vu leur foi sérieusement compromise. Au contraire, il nous faudrait, pour travailler au niveau de l'Église-institution, exiger au minimum deux choses. Une grande qualité d'être spirituel. On n'a pas besoin d'avoir déjà son certificat de béatification ou de canonisation, mais être en marche spirituellement. Et deuxièmement, un grand esprit communautaire chrétien, prêt à vivre avec les autres, à partager, à grandir. Et c'est cette appartenance à une communauté qui va le mieux nous prémunir contre les déviations dont on parlait dans l'exposé précédent, le fonctionnarisme routinier, la tolérance exagérée, l'autoritarisme, etc., etc. Troisième tâche pratique, c'est évident que lorsqu'on va s'appliquer à annoncer, à réclamer, et à réaliser ce renouveau en profondeur de l'Église institutionnelle, je n'ai pas besoin de vous d'insister davantage, on va avoir à traverser tout un champ de mines. Les allergies, les objections et les résistances même vont s'affirmer de plus en plus. Vous savez, on ne peut pas jeter de l'eau bénite sur quelque chose sans que les petits diables, puis le gros diable, se manifestent. Et vouloir que l'Église devienne plus sainte et plus irréprochable le met au défi. Et ses réactions vont se manifester de toutes les façons. D'abord chez ceux qui sont opposés, les adversaires de l'Église, chez les blessés de guerre, les échaudés de l'Église, qui sont sceptiques face à son renouveau. Pour eux, l'Église, elle est morte et enterrée. Les individualistes chroniques, tous ceux qui aiment bien leur autonomie et leurs patentes actuelles, ils aiment bien leurs petites œuvres à eux autres, puis ils ne veulent pas le déranger. Le communautaire va les agacer. On va avoir également des réactions qui vont venir de celles que j'appellerais les sourds, muets et aveugles spirituels, volontaires ou non. Et là, on va avoir toute une litanie de barrages, d'objections, de pièges, comme des phrases comme « Faut pas voir, puis mettre Dieu partout, faut pas charrier, vous faites de la démagogie. Qu'est-ce qui nous reste comme cause seconde? Le Seigneur nous compte sur nous. C'est son Église, alors laissons-le faire. C'est pas à nous de nous en mêler. Faut pas être plus catholique que le pape. Ben, ces réactions-là, remarquez, ne sont pas tellement nouvelles dans l'Église. Saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, 14-15, dit fort bien que l'homme laissé à sa seule nature n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il ne peut le comprendre, car c'est spirituellement qu'on en juge. Eh bien, il se peut que dans nos murs et dans nos cadres, le fait de demander une Église sous la mouvance de l'Esprit, une Église restituée à son Maître le Seigneur, puisse paraître folie, et que certains ne puissent pas le comprendre. Et que ces objections dont je viens de parler, comme « pas voir, il faut pas voir, puis mettre Dieu partout », ben, entre vous et moi, si on ne peut pas mettre Dieu dans son Église, partout dans son Église, si on ne peut pas le voir dans son Église, il y a quelque chose qui manque. Quand les réactions disent « mais il ne faut pas charrier », mais charrier c'est quoi? C'est se moquer de quelqu'un, c'est exagéré. Mais est-ce exagéré, est-ce se moquer de quelqu'un quand on exige la sainteté en Église? Quand on demande que l'Église devienne le plus irréprochable possible, est-ce que c'est faire de la démagogie, flatter les sentiments populaires? C'est ce pourquoi le Christ a donné sa vie. Quand on dit, bien, le Seigneur agit par les causes secondes que nous sommes, d'accord? Je ne suis pas contre les causes secondes, mais il faut que celle-ci recours à la cause première. Surtout, ne se prennent pas pour la cause première. La prière communautaire place précisément les causes secondes que nous sommes de plus en plus près de la cause première qu'il est et de qui nous recevons lumière et force. Alors, recourir à la cause première qu'est Dieu n'éclipse pas les causes secondes. Car plus les causes secondes se rapprochent de lui, plus elles deviennent rentables. Plus il passe, plus nous sommes utiles et utilisés. Trop souvent, notre souci d'agir en tant que cause seconde et libre nous amène peu à peu à négliger notre relation avec la cause première. On prie, oui, mais si peu que pas, et souvent chacun son bord. Alors que nos intercessions, nos louanges, notre adoration, notre reconnaissance ensemble, en tant qu'instrument collectif, en tant que communauté de relais, obtiendraient tellement plus. Vous savez, j'ai expérimenté moi-même l'importance de cette distinction. Souvent, je rencontre des anciens collègues ou des confrères qui me disent « Mais oui, mais tu t'en remets tellement au Seigneur, est-ce que tu ne deviens pas en bourgeoisie, passif? Est-ce que ce n'est pas un peu de la capitulation? Est-ce que ce n'est pas un peu du laisser-aller? Qu'est-ce que tu fais des talents que le Seigneur t'a donnés? Qu'est-ce que tu fais des qualités qu'il t'a prêtées? » Bien, à cela, je réponds ceci. Je me sens mieux et plus utilisé que jamais dans ma vie. Pour la raison très simple qu'autrefois, c'est moi qui évaluais mes qualités et mes talents et m'utilisais, ou j'étais utilisé par l'épiscopat, mais j'ai découvert que lui, le Seigneur, il me connaît encore mieux que je me connais moi-même, puis malgré tout le respect que je dois, il me connaît encore mieux, le Seigneur, que nos seigneurs me connaissent. Et par conséquent, je me sens beaucoup plus utilisé beaucoup mieux. Le Seigneur est de tous les employeurs le meilleur. On entend aussi des objections comme « Son Église, il faut la laisser faire. » C'est son Église, c'est son affaire, il va y voir. Ben oui, mais il va y voir si on lui laisse la place. Mais si on ne lui offre pas de prendre sa place en Église, comment est-ce qu'il va y voir? Faut pas être plus catholique que le pape. Ah oui. Actuellement, que de prêtres, de religieux, de religieuses, et parfois d'évêques, s'échappent et laissent transparaître soit de la déception, soit de l'agressivité, soit de la condamnation de celui qui a été choisi par l'Esprit pour être le vicaire du Christ. Enfin, une objection courante et une dernière, il ne faut pas voir du merveilleux, du miracle partout. Ben oui, mais ce qui est assez curieux, ceux qui nous disent ça, qui ne veulent pas voir du merveilleux, des miracles, des certitudes, il ne faut pas en voir partout, quand on les observe, eux autres, ils ont établi leurs certitudes dans leurs propres analyses. Ils ont mis le merveilleux, le voient, eux, dans leurs beaux discours, leurs beaux textes, puis leurs beaux dossiers. Puis les miracles, ils les attendent de leurs problématiques, puis de leurs priorités, puis de leurs initiatives. Est-ce qu'il n'y aura pas place qu'on accepte de chercher du côté du Seigneur nos certitudes, le merveilleux en Église et les miracles? Alors, mes chers amis, voilà trois premières activités importantes. J'en souligne deux autres rapidement. Il nous faut conserver l'unité de l'esprit. Cette unité de l'esprit qui est l'assimilation de tous au Christ par la communication de la filiation divine qui nous rattache au Père. Et cette unité de l'esprit qui nous est donnée comme un don divin, il faut à tout prix la conserver. Et ce qui implique la suppression de la haine, de l'inimitié, du fanatisme. Vous savez, on est passé d'une attitude regrettable autrefois où on disait « hors de l'Église, point de salut ». Puis on dirait qu'on a importé ça à l'intérieur de nos cadres et puis ça se traduit souvent par « hors de ma patente, de mon œuvre, de ma gang, pas de salut ». Ça implique également l'unité de l'esprit qui font en arriver à une seule âme, comme saint Paul nous le rappelle aux Philippiens, restez fermes dans un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur, selon la foi de l'Évangile. Comblez ma joie en vivant en plein accord, ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité. Enfin, ça nous amène, l'unité de l'esprit, à développer deux grandes qualités. Deux aspects de l'amour mutuel que Jésus nous enseigne lorsqu'il dit « Mettez-vous à mon école » dans saint Matthieu 11, 29. « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Doux. Donc, un esprit de douceur. Saint Paul nous dit au Galates 6, 1, « S'il arrive à quelqu'un d'être pris en faute, c'est à vous, les spirituels, de le redresser dans un même esprit de douceur. Prends garde, toi, spirituel. Tu peux être tenté, toi aussi. » Et esprit d'humilité, il nous en parle dans l'Épître aux Philippiens, ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Alors, c'est très important. L'Esprit Saint est le principe vital de l'Église et l'unité de l'Esprit Saint doit être conservé, assumé, manifesté, comme on vient de le voir, avec douceur et humilité. Et ça nous amène à aimer même ceux qui ne sont pas d'accord. Et quand on travaille ou on va travailler au renouveau de l'Église institution, qu'on va rencontrer des gens qui vont faire objection, des gens qui vont bloquer, des gens qui vont dénigrer, se moquer, railler ou résister, nous devrons, mes frères, si nous croyons au renouveau spirituel de l'Église institution, pouvoir les aimer avec douceur et humilité. Et autant aujourd'hui, j'ai l'audace d'interpeller en Église, et je sens le besoin d'intercéder avec vous pour que le Seigneur nous accorde cette grâce, autant je sens le devoir de ne pas bousculer en Église, d'aimer et de respecter les autres. La cinquième et dernière activité concrète qui s'impose, vous l'avez deviné, il ne nous reste maintenant qu'à passer aux actes. Vous êtes, mes chers amis, mes chers frères et sœurs qui êtes ici, déjà en poste. Vous représentez à peu près toute la gamme des secteurs et des niveaux de l'Église institutionnelle. À chacun d'entre vous et d'entre nous, d'assumer toute sa responsabilité, de prendre d'abord conscience de notre devoir, de réaliser que le Seigneur nous a mis en place, qu'il a déjà préparé nombre d'autres confrères et consœurs prêts à collaborer à ce renouveau en profondeur. Pensons également que sans réforme, l'Église reste pénalisée, que nombre de fidèles sont déçus. Alors, soyons prêts à nos risques et dépens, avec persévérance, à porter la bonne nouvelle à domicile, chacun dans nos secteurs. Être capable d'aimer l'Église institution malgré ses erreurs, ses lacunes et ses faiblesses, rempli de l'espérance, de la paix et de la joie du Seigneur, et prêt à nous engager avec audace et doigté en comptant sur ses grâces. À chacun d'entre nous, par conséquent, il faut renoncer à nos œuvres et à nos pompes et à nous mettre à la besogne. Chers amis, il ne me reste qu'à conclure. Le Christ a donné sa vie pour que son Église soit sainte et irréprochable. Le Concile Vatican II, nous l'avons longuement précisé au début, insiste pour que l'Église soit toujours purifiée, qu'elle recherche sans cesse la pénitence et son renouvellement. Vous qui êtes ici présents, et vous qui écouterez ces cassettes, autant que moi, avons été appelés à y travailler. L'expérience nous a permis de constater souvent nombre de lacunes. Nous pouvons les expliquer. Nous souhaitons ardemment les voir disparaître. Soyons les instruments actifs, efficaces, persévérants du Seigneur. À l'appel du Christ, à l'appel de Vatican II, il nous faut maintenant œuvrer pour de bon et collaborer à ce renouveau en profondeur. On a absolument besoin de retrouver à l'intérieur de notre Église tout ce qu'on essaie d'exporter ailleurs dans le monde. L'amour, la foi, la vérité, la prière, la justice, l'esprit de communauté, de pardon, d'entraide, vécu et exprimé avec ferveur, avec spontanéité et avec constance. Plus que jamais, l'Église doit non seulement renforcer la limpidité, l'opportunité et la sagacité de son discours, de ses belles paroles, mais également la cohérence entre son enseignement et sa pratique, si elle veut retrouver dans le monde d'aujourd'hui pour demain sa capacité transformatrice. Encore une fois, comme je l'ai dit à quelques reprises, Église, institution, évangélise-toi toi-même d'abord, si tu veux vraiment conquérir le monde comme le Seigneur te l'a demandé. Chers amis, de tout cœur, merci d'être venu. Merci d'avoir cheminé avec moi dans cette deuxième interpellation fraternelle. Merci d'avance pour notre échange qui s'ensuivra dès demain. Il nous sera possible alors, la baie vitrée qui nous sépare ayant disparu, de pouvoir vivre une intense expérience de communauté chrétienne. Que le Seigneur vous rende à son unique manière l'intérêt que vous venez de porter à cette délicate et brûlante question du renouveau en profondeur de l'Église-institution. Mes chères sœurs et mes chers frères dans le Christ, aimons-nous les uns les autres. Aidons-nous les uns les autres. Exhortons-nous les uns les autres. C'est ainsi que son Église, au Seigneur, notre Église, redeviendra sainte et irréprochable. Un vrai modèle vivant d'amour, de paix et d'espérance dans le monde. Un instrument puissant de son évangélisation. Au revoir, bon repos ce soir, à demain, et comme nous le disons à Pax Vobis, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.